Daniel Haber, bonjour.
Bonjour Blaise, bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka pour nos conversations du lundi matin avec évidemment hein, l'actualité Daniel qui ne cesse de nous impressionner. Nous sommes le lundi 6 avril aujourd'hui. C'est la date de l'ultimatum de Donald Trump. Donc il arrive à expiration et visiblement les Iraniens n'ont pas l'air de vouloir coopérer avec cet ultimatum. Selon vous, Daniel, est-ce qu'on va vers une escalade de ce conflit?
En fait, c'est un petit peu une croisée de chemin, ce qu'on appelle un quitte ou double. Et comme ici, à conversation, on n'est pas dans le, dans les, dans le, dans le, la prévision, la boule de cristal, je ne peux que vous donner des éléments aussi solides que possible pour réfléchir. Je vais vous donner quatre éléments qui sont à la base de la réflexion des Israéliens, des Américains, ce 6 avril. Le premier, c'est que lorsque Trump menace l'Iran de l'enfer, en fait, l'enfer a déjà eu lieu. On a éliminé le guide suprême. Je rappelle qu'en allemand, guide suprême, ça se dit Führer, que les principaux chefs des Pasdaran ont été éliminés et sont menacés. Et puis aussi, les destructions ont été extrêmement importantes. En tout cas, tout ce qu'on pouvait identifier comme capacité militaire et atteindre a été atteint. Et bon, l'inconnu, c'est ce qu'il y a encore beaucoup de capacités cachées. Et évidemment, il y en a et on ne connaît pas quel est le pourcentage. Mais une fois qu'on a dit ça, l'enfer promis par Trump, c'est déjà s'en prendre à des objectifs civils. Ça a déjà commencé avec les ponts, on menace les centrales électriques, on parle d'universités, de centres de santé qu'on met en avant, sans expliquer pourquoi. Ça rappelle la guerre à Gaza avec toute la désinformation. Bref, si les Américains s'en prennent à tous ces objectifs civils, on change la nature du conflit. On s'en prenait aux Pasdaran. L'idée, c'était de protéger la population iranienne. On est venu les délivrer. Si on s'en prend aux infrastructures qui vont pourrir la vie de toute la population iranienne, là, on est dans des objectifs qui sont contraires à ce qui a été annoncé. Donc ça, c'est vraiment le premier élément qui est dans la réflexion des Américains. Le deuxième, c'est que on voit bien que contre toute attente, l'Iran continuent de disposer de capacités de nuisance. Ils l'ont déjà fait, et eux aussi s'en prennent à des infrastructures civiles en Israël, dans les pays du Golfe. Et donc là, effectivement, l'escalade, elle prendrait une nature différente. Troisième élément, pour l'instant, c'est une guerre c'est une guerre économique à laquelle on essaie. On détruit des infrastructures militaires ou civiles, mais il y a peu de victimes. C'est une guerre sans victimes, même s'il y a ici ou là 10 ou 13 morts chez les Américains. Même les pilotes qui ont été abattus ont été retrouvés. Donc, si vous voulez, c'est une guerre économique. Et donc, c'est aussi un élément à considérer. Et puis enfin, il y a les opinions publiques mondiales. Et là, on voit que, soit par ignorance, soit par idéologie, soit grâce à la propagande, en fait, la colère du monde, qui s'exprime devant les pompes à essence, par exemple, elle se tourne davantage contre les Américains, que contre les Iraniens. Que ce soit la position du Sud global, il y a un ressentiment anti-occidental permanent, que ce soit les Russes et les Chinois qui, s'estimant bousculés par les Américains, profitent de la situation pour se venger, mais même on voit dans le camp occidental quand même beaucoup, beaucoup de prises de position d'hommes politiques et de journalistes et d'experts qui sont assez anti-américaines et même tentés d'ailleurs, teintés d'antisémitisme, avec toujours cette cause palestinienne qui réunit beaucoup de monde et cause palestinienne qui a été prise en main et qui est défendue par les Iraniens et par ses proxys. Donc on voit que l'opinion publique mondiale, elle n'est pas dans le sens de ce qui nous fait plaisir. Donc tout ça dans cette question de quitte ou double fait penser que le double, c'est-à-dire l'escalade, n'est pas forcément la meilleure décision pour les Israéliens et pour les Américains.
Justement, si les États-Unis et Israël envisagent de sortir du conflit, est-ce que c'est possible pour eux?
Écoutez, en tout cas, ce qu'on peut dire du côté américain, c'est que Trump n'arrête pas de donner des signes de capacité de sortir ou de volonté de sortir, notamment en rappelant à chaque fois l'immensité des dommages qu'il a causés aux Iraniens. Donc s'il le dit, c'est que c'est déjà pour lui une victoire. Ils ont pour l'instant des pertes au fond directes limitées, bon, quelques avions. 13 morts, je crois, moins de 400 blessés. En fait, ce sont surtout les Israéliens et les pays du Golfe qui sont l'objet des représailles, pas les Américains. Mais avec le temps, le risque augmente que ce soit des cibles américaines qui soient touchées. Or, l'opinion américaine, qui était peu enthousiaste au début, l'est de moins en moins. Et Trump bon, est conscient de tout ça et il a un certain nombre d'échéances. Je rappelle la rencontre avec Xi Jinping le 15 mai, le 4 juillet, la fête nationale où il serait bon pour Trump d'annoncer une victoire, et puis les élections de mi-mandat. Donc pour les Américains, la tentation de la sortie, on la connaît, elle est tout le temps. Mais du côté israélien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que on a infligé beaucoup de dégâts aux Iraniens déjà. C'est déjà une victoire. On a décimé beaucoup de leurs dirigeants et on constate que malheureusement, le régime, même s'il est très ébranlé, peut chuter, mais on ne sait pas quand. Et donc, plus ça dure, plus le coût économique pour Israël est élevé. Et puis on a vu surtout ce coût sur cette pression sur l'armée israélienne qui est engagée dans de très nombreux théâtres, non seulement sur l'Iran, mais évidemment contre le Hezbollah. Il faut aussi surveiller Gaza, la Judée-Samarie, la Syrie, le Yémen. Donc ça fait beaucoup à la fois. Et pour Israël, d'ailleurs, le fait de pouvoir terminer le travail au Liban contre le Hezbollah est en soi une bonne nouvelle qui pourrait justifier de dire, bon, ben, l'Iran, on a fait des dégâts et maintenant on va terminer le travail avec les Hezbollah et demain aussi avec le Hamas. Donc si on fusionne, si vous voulez, la position américaine et la position israélienne, on pourrait dire que les deux pays pourraient se mettre d'accord pour tenter une sortie bien organisée, bien vendue à leurs opinions publiques. On verrait comment et dans quelles conditions, sachant qu'une sortie permettrait un redressement rapide, reprise des bourses, baisse de l'inflation, etc., qui serait bon pour les deux pays. Voilà un peu la tentation d'une sortie de crise.
Oui. Justement, vous parlez de sortie de crise. Si ces deux pays, donc on parle toujours des États-Unis et d'Israël, décident de sortir du conflit, est-ce que ce serait facile à réaliser?
Moi, je vois trois dangers que, à mon avis, les deux pays explorent. Le premier, c'est que l'Iran peut dire, bah, vous arrêtez, mais pas nous. En particulier, le détroit d'Ormuz, nous, on ne l'a pas fermé, on le filtre. Personne ne peut nous en vouloir, et donc on va continuer à polluer, si j'ose dire, à pourrir la vie de ceux que nous n'aimons pas. Donc, ça pourrait être le maintien de ce blocage, filtrage du détroit d'Ormuz. Si on arrête maintenant, on se retrouve quand même dans une situation qui est la même que celle d'avant l'attaque du 28 février, c'est-à-dire un Iran qui reste le régime islamique avec la capacité de reconstruction. Ça rappelle les différentes guerres qu'on avait menées avec le Hamas avant le 7 octobre où on gagnait, on arrêtait et ça reprenait après. Donc le risque, c'est de voir des guerres contre l'Iran se répéter à l'avenir. Et puis, dernier élément, les Russes et les Chinois sortiraient de ça, de cet arrêt, de cette sortie, comme des grands vainqueurs de cette conflit inachevé. La guerre contre l'Ukraine reprendrait un petit peu de vigueur. La Russie serait enhardie et à la fois enrichie par la hausse du pétrole qui va un petit peu durer. Et puis, on se demande à quoi va ressembler, là, s'il y avait cette sortie, la rencontre entre Xi Jinping et Trump, un Trump qui serait pas en position de force, avec le danger de trouver une sorte de règlement du détroit d'Ormuz par l'ensemble de la communauté internationale, ce qui ferait que les Chinois deviendraient des garants, feraient partie de ceux qui garantissent le libre passage dans le détroit d'Ormuz, et donc ça ferait rentrer la Chine dans la géopolitique du Moyen-Orient aux côtés des Américains. Je ne pense pas que les Américains en aient envie. Donc on voit que c'est que la sortie n'est pas facile. Donc ceux qui parlent d'impasse n'ont pas tout à fait tort. On est dans une situation où on peut engranger un certain nombre de bons résultats, mais pas définitifs. Et tout le monde le savait que ça pourrait être comme ça. Et on en est là aujourd'hui en attendant la suite.
Merci beaucoup Daniel Habert d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. On se retrouve lundi prochain.
À la semaine prochaine.